Vous écoutez La Troisième Rangée pour un segment un peu particulier, le coup de Projo, où vous choisissez pour nous un film qui vous tient à cœur. Avant de commencer cet épisode, on vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous laisser vos suggestions via nos comptes Facebook et Twitter. On prend tout en compte et on choisit un nouveau film toutes les deux semaines. Maintenant que vous êtes prévenus, bande annonce.
O sea, yo lo entiendo, va, que venga por aquí a este pueblo a descansar, va. Como gente como ustedes son las que queremos en este pueblo, en este lugar, va. Yo no veo por qué no, va. La realidad, no veo por qué no, sino que no es porque sea mi pueblo, no es porque sea mi pueblo, pero has escogido un pueblo mejor. Espera tantito, estoy con una persona. No es porque sea mi pueblo, pero la realidad has escogido un pueblo muy bueno y gente muy noble, muy sencilla.
Rappen est un film hispano-mexicain réalisé par Carlos Regada, sorti en 2002 avec des acteurs pas professionnels, Magdalena Flores, Yolanda Villa, Martin Serrano et un acteur professionnel, Alejandro Ferretti. C'est un film qui a eu une mention spéciale au Festival de Cannes 2002, mention spéciale à la Caméra d'Or. Un film particulier puisque c'est l'histoire d'un homme qui revient sur les terres de son enfance, des terres plutôt rurales, pour y mourir. C'est dit explicitement dans le film. On va commencer par Julie. Julie, comment tu as pris ce Rappen qui, en soi, avait l'air un peu particulier, un peu unique, avec son format là, 2.88.1, donc c'est-à-dire un format très très allongé, beaucoup de largeur, peu de hauteur. Premières impressions.
Avec tout le recul dont je suis capable, oui. Je crois que c'est le pire coup de Projo que j'ai vu à la troisième rangée.
Ouch.
Mais en fait, quand j'y pire, c'est pas que c'est un film qui est laid ou qui ne raconte rien ou qui manque de qualité. Je ne peux pas dire ça. Enfin, ça se voit qu'il a été fait pas numériquement, mais à la pellicule. Les cataraches, bon, ils m'ont vite énervé, mais c'est sympa. L'histoire, pourquoi pas, même si pour moi c'est vu et archi revu, le coup du type qui va mourir, mais en fait on sait pas s'il va mourir ou pas parce qu'il se perd dans ses angoisses existentielles. Mais bon, bref, pourquoi pas tout ça. Mais c'est juste nul, je suis désolée. C'est vraiment terrible, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à le finir. Pour que les auditeurs comprennent bien, j'ai vu une heure, je me suis arrêtée, je ne fais jamais ça, je vois tout d'un coup. Même The Irishman, je me suis farci les 3h20 d'un coup sans pause, donc je n'arrête pas les films. J'ai réessayé quelques heures avant l'émission, j'ai vu une demi-heure et là j'ai arrêté parce que j'ai compris que je le regardais pour le détester. Et il faut pas faire ça.
Ouais, c'est vrai.
Il faut vraiment pas faire ça. Et en fait, je trouve que c'est le genre de film qui, pour moi, n'est pas du cinéma, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Quand je dis n'est pas du cinéma, je veux dire, le cinéma, quelque part, ça doit nous faire croire à une immersion. On doit se sentir, même si on n'aime pas, mais on doit y croire, en fait. Et là, moi, je n'y ai pas cru une seule seconde à cette histoire. C'était tellement boursouflé, tellement superficiel. Et en même temps, en fait, il échoue vraiment partout, quoi. C'est-à-dire que même dans l'utilisation de musique, moi, j'ai vraiment été révoltée. C'est-à-dire, il emploie, donc, au niveau des compositeurs, il y a du Bach, il y a du Shostakovich, il y a du Arvo Pärt. Et donc, ce sont des compositeurs qui, quand même, sont croyants. Donc, ils ont écrit énormément vis-à-vis de Dieu. Et il utilise ça d'une manière tellement maniérée que je trouve ça insultant, en fait, pour ces gars-là. C'est vraiment pas sympa, quoi.
Alexis, tu abondes dans le sens au niveau de la musique de Julie.
Je me suis dit aussi, mais pourquoi utiliser ça comme ça, dans telle longueur, comme des morceaux plaqués un peu de manière maladroite sur des moments pour je ne sais quel maniérisme, effectivement.
Pour reculer un petit peu, ton avis général sur le film ?
Moi, j'ai trouvé ça, plutôt normal. Je suis assez nuancé sur le film. Je l'ai regardé d'un coup, je suis assez étonné de voir qu'il a autant divisé. Moi, je l'ai trouvé assez classique dans ses thèmes. Effectivement, dans la forme, c'est un film qui est plutôt contemplatif et pas forcément très immersif, ça, je suis d'accord, mais...
C'est marrant parce que ceux qui, là, autour de cette table, malheureusement, je dis malheureusement parce que j'aime toujours quand il y a débat, mais il n'y aura pas de grands défenseurs de ce film, on peut le dire un petit peu par avance, mais souvent, j'ai vu, en me renseignant un petit peu, que les défenseurs de Rappen disent que c'est une œuvre unique, qu'on ne voit nulle part ailleurs, et c'est étrange que tu qualifies ça justement de... Et Julie a l'air d'accord avec toi, mais toi, tu as trouvé ça très classique.
Oui,
très sur rail.
Oui, parce que sur les thèmes, j'ai l'impression que c'est encore une fois l'opposition entre la culture et la nature, qui est quand même une opposition extrêmement classique. On la voit en terminale au lycée. Et donc, effectivement, on voit un petit peu, on parle rapidement d'un homme déraciné, c'est quand même introduit là-dessus, puisqu'on le voit dans les embouteillages, dans son mal-être, etc., et qui va apprendre à renaître dans la nature. Et globalement, cette thèse et comment est-ce qu'elle est décrite dans le film me semble quand même relativement classique. Enfin...
Alors, on ne va pas demander l'avis de tout le monde, on va plutôt jouer à un jeu qui est un peu rigolo, à savoir à quel réalisateur ce film vous a-t-il fait penser ? Parce que chacun, voilà, chacun dans mon petit chemin de fer, j'ai noté que chacun a trouvé des parallélismes complètement évidents avec un auteur, mais c'est jamais le même auteur. Donc on va recommencer avec Julie, tu avais l'air bien partie. Julie, toi tu as pensé à...
À Naomi Kawase, c'est-à-dire que pour moi, le film échoue là où Naomi Kawase, elle réussit. C'est-à-dire dans le rapport, on va dire, aux petits gens, à la terre, à la nature. Mine de rien, il y a, on va dire, qu'un cheveu qui sépare l'authenticité du boursouflé. Et Rapone est boursouflé là où Kawase est vraiment authentique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Kawase. Mais disons qu'on sent chez l'une la sincérité quand on sent chez l'autre l'infatuation.
T'as raison, c'est une ligne très très fine. Lila.
Non, mais déjà, je suis assez d'accord sur ce que dit Julie par rapport à Kawase. Où Kawase, il y a ce rapport, enfin, moi j'ai envie de dire presque shintoïste, avec une porosité
organique,
oui, organique entre, avec la porosité entre l'homme et la nature, que pour le coup, j'ai pas du tout senti là. Enfin, soi-disant retour à la nature, ok, le gars fait 4 randonnées pendant le film, mais au-delà de ça, j'ai pas vu grand-chose, quoi. Ouais. Non, moi j'ai. Bah, ça m'a un peu fait penser, mais ça c'est aussi le côté un peu Amérique du Sud, tout ça, mais à Herzog, ou à Lucrèce. À Martel qui aussi se réclame un peu d'Herzog, mais son personnage avec sa crise existentielle, etc., m'a un peu évoqué typiquement le Klaus Kinski dans Fitzcarraldo. Sauf que Klaus Kinski, c'est un type qui a un hubris monstrueux, qui a cette folie en lui, cette flamme, cette exaltation. Là, on a juste un pauvre type qui se fait chier. Et là-dedans, du coup, on a Zama de Lucrezia Martel, où on a aussi l'histoire d'un officier de l'armée qui se retrouve coincé en Amérique du Sud, qui veut partir de là, qui s'emmerde. Et là aussi, c'est beaucoup mieux fait par Lucrezia Martel. On sent vraiment chez lui le poids de ses... immensité vide de cette vie, de ce petit peuple avec lequel finalement il est incapable de se connecter. Là vraiment j'ai l'impression qu'avec Rapone on est le cul entre deux chaises, avec un type qui d'un côté a son côté existentialiste machin, qui veut faire ce retour à la nature, mais qui au final, moi je le sens pas du tout connecté à ce monde là justement, je le sens complètement à côté. Et il y a une certaine hypocrisie dans sa démarche.
Et j'ai trouvé ça dommage parce que je suis d'accord avec vous tous. J'ai trouvé qu'il y avait un sens esthétique qui était propre au film, qui me semblait assez soigné. Est-ce que le problème de Rapone, c'est pas son personnage justement qui est trop entre la critique, l'exaltation, qui j'ai l'impression cristallise un petit peu toutes les remarques, les critiques qu'on lui fait, c'est-à-dire que il manque de mordant, il est très superficiel.
Il manque d'écriture en fait, on dirait clairement quoi.
Je voulais le préciser par rapport, je pense pas que ce soit la faute de l'interprète, à savoir Alessandro Ferretti, qui sert à la tambouille qu'on lui a préparée.
Bien sûr.
Je pense pas que ça lui soit imputable. Nam.
Le mec c'est aussi un connard.
Mais voilà, mais justement il y a un côté très antipathique.
Oui, c'est ça.
Mais pas assez. Pas autant antipathique pour que tu te dises ah ouais il est fascinant.
Oui, oui.
Kinski.
Parce
dans,
que moi je pense à la scène où il est au bar, il boit des coups avec les locaux. Il met son casque, il écoute de la musique classique, puis t'as les locaux qui sortent la grosse chaîne, et puis ils mettent la radio. Et lui il fait non mais votre musique c'est de la merde, je vous pète la chaîne. Mais pourquoi ?
D'ailleurs, au-delà du personnage, j'ai trouvé qu'il y avait une condescendance envers justement ce qu'il était supposé magnifier. Il y a une condescendance entre l'espèce d'artiste ou de bourgeois qui arrive et qui comprend la nature, et après, derrière, on filme les gamins locaux qui sont tellement débiles qu'ils regardent dans la caméra parce qu'ils font des regards caméra parce qu'ils savent pas ce que c'est.
Mais tous, ils font les regards caméra.
Ouais, ouais.
Et à tel point que je me dis, mais... je me demande si c'est même pas le réalisateur qui leur a demandé, parce qu'à ce point-là, un regard caméra, ça me semble vraiment forcé.
Il y a un côté,
en fait.
J'aimerais que ça ne soit pas ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté débilisant. Quoi. On aurait dit un documentaire très biaisé d'un bourgeois ou d'un urbain sur le monde rural.
Après, je pense que c'est peut-être un peu entretenu. Alors, est-ce que c'était voulu dès le début ou est-ce que ça s'est fait comme ça? Mais il y a quand même un moment dans le film où il brise le quatrième mur. très très subrepticement, mais du coup cette porosité elle est quand même un minimum voulue. Enfin, est-ce qu'elle est voulue à l'origine ou est-ce qu'elle est assumée après coup? Voilà, ça c'est la question.
Moi, si elle est voulue à l'origine, on passe pour moi de la case maladroit à la case malsain. Mais bon.
Tout à fait.
Comme on parlait de réalisateurs à qui vous avez pensé. Oui, il y a aussi Andrei Tarkovski. Alors je m'emmerdais devant le film, voilà, je vous le dis. Je suis allé sur Allociné et je suis regardé les secrets de tournage et tout, ouais. Et le réalisateur dit lui-même s'est inspiré de Tarkovski. Ce qui m'a un peu chagriné parce que j'étais à une heure de film à peu près. Et pour l'instant, ce truc qu'il a pris de Tarkovski, c'est des plans séquences longs où personne ne parle. Sauf que chez Tarkovski, c'est des films qui sont quand même très denses et ces moments longs te permettent aussi de digérer ce que t'as vu avant. Là, il y a quand même vachement moins de contenu pour réfléchir, parce qu'au final, tout se comprend assez vite. Et au final, ce rapport avec Tarkovski, je l'ai plutôt vu à la fin du film, où il y a clairement des plans. C'est pour l'écriture de sa mise en scène, il a fait des photos de plans de Tarkovski. Il a fait OK, je veux ça. Comme il y a des moments où il y a des plans sur la vieille à la fin, où elle est filmée de dos et juste sa chevelure de dos. Ça, c'est des trucs qu'on voit chez Tarkovski. Le lit, quand ils sont tous les deux à la fin, il y a un plan loin où, pareil, c'est le lit qu'on voit dans Stalker ou Nostalgia, c'est filmé pareil. Et même la conclusion du film, elle qui part sur le tracteur, t'as un bruit de train qui arrive à ce moment-là, qui annonce ce qui va arriver après, mais c'est aussi, je pense, une réutilisation de Stalker quand il rentre dans la zone. Et d'ailleurs, là, ils sortent d'un truc et c'est filmé pareil, enfin, les personnages sont filmés pareil. Et même la fin, t'as des croix qui sont plantées. Enfin, c'est même pas des croix, en fait, c'est des poteaux téléphoniques qui sont présentés comme des croix chrétiennes. Truc qui était déjà chez Tarkovski, donc voilà.
Julie.
C'est marrant de revendiquer comme influence Tarkovski quand on fait en fait tout le contraire de ce que lui-même a fait. C'est-à-dire Tarkovski, il s'inscrivait dans les pas de Bresson quand il a écrit dans Le Temps scellé que la musique était très souvent superflu dans le cinéma, et en fait il fait avec son film, encore une fois, sur la musique, tout le contraire de ce que Tarkovski faisait dans son cinéma et tout le contraire de ce qu'il revendiquait. Enfin, le type, il s'allie ses propres influences, quoi.
Puis après le truc aussi, c'est que Tarkovski, là où ses films sont aussi denses et t'as besoin aussi de les digérer, c'est aussi parce que Tarkovski, vu qu'il a commencé en URSS, c'est devenu un style à part la suite pour ses derniers films quand il est sorti, mais il pouvait pas tout dire directement.
C'est ça, exactement.
Ce qui fait que tu te retrouves avec des personnages. En fait, c'est la meilleure technique en fait pour passer les censeurs. T'écris des dialogues que les censeurs ne comprennent pas. comme ça, t'es pas emmerdé. Mais du coup, dans Tarkovski, t'as souvent les dialogues ou les personnages. En fait, c'est des gens qui ont eu tout un cheminement de pensée et ils te disent la conclusion. Et du coup, c'est à toi de décortiquer le truc et de comprendre ce qu'il y a. Tandis que là, il est quand même plutôt, pour Japon, il est quand même plutôt libre de ce qu'il veut s'exprimer. Mais il n'y a pas grand chose, malheureusement. Ouais.
Bon, je pense qu'on a fait le tour sur Rapone, que j'ai pas envie de mettre plus bactère, mais qui a quand même.
Pour terminer sur une petite note positive, parce que j'ai quand même vu qu'il y avait des gens qui l'avaient bien aimé, mais je pense que c'est vraiment le genre de film qu'il faut voir au cinéma, ne serait-ce que parce que quand t'es chez toi, t'as envie de faire d'autres trucs.
Oui, c'est vrai.
C'est compliqué.
C'est vrai. Lila pour le démo.
Mais au-delà de ça, j'ai vraiment eu du mal à le suivre, et je pense que c'est pas juste à cause du rythme, du côté contemplatif. Je me suis même posé la question si c'était pas en partie lié au ratio. Oui. Très horizontale, qui en fait je me suis rendu compte que ça me fatiguait, parce que cette façon de percevoir l'image, de toujours devoir balayer de droite à gauche, alors que c'est bête, c'est pas plus large que ce que je regarde d'habitude, mais le côté horizontal en fait faisait que j'avais l'impression de pas arriver.
Faudrait
à
faudrait préciser le ratio aux auditeurs vite pour expliquer le truc, c'est 2,88:1, quelque chose qui existe a priori que pour ce film,
c'est ça.
Mais en plus avoir ce ratio très horizontal avec une caméra à épaule qui bouge tout le temps, ça aide pas beaucoup la lisibilité non plus pour certaines scènes.
Beaucoup de largesse, peu de hauteur, un bon résumé pour Rapone. La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.